Radio Foot International, Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Radio Foot, le sempiternel charme de la coupe. À la une en France, un petit poussé affrontera un ogre en finale. Le PSG rencontrera les Herbiers, un club de 3ème division.
Je lève mon verre au 8-5.
Club de 3ème division, club du 8-5 également, c'est vrai, la Vendée, de quoi lever son verre, effectivement. Quelle exposition pour cette équipe issue des échelons inférieurs du football français. Ces belles histoires sont-elles les dernières branches auxquelles la Coupe de France peut se raccrocher, sachant qu'à la fin, c'est quand même un peu toujours Paris qui gagne. Bonjour Carlos Bianchi.
Comment allez-vous? Ça va bien?
Ça va très bien, et vous?
Moi.
Vous l'avez jamais gagné cette Coupe de France, c'est ça,
hein? Non, j'arrivais en finale et le jour qu'on devait jouer la finale contre Saint-Etienne, en demi-finale à la dernière minute, Zambelli m'a cassé deux côtes, il m'a envoyé à l'hôpital.
Ah, mauvais souvenir alors.
On avait battu Nice 2-1, mais à la dernière minute, il avait eu le temps pour me casser les côtes.
Alors désolé,
gentil,
de...
lui, hein.
Désolé de vous avoir rappelé ce mauvais souvenir. Bonjour Naïm Moniol.
Salut Hugo, salut à tous.
Et bonjour Bruno Constant.
Bonjour Hugo.
Mister Football Anglais. Bruno
oui,
Constant, hein, c'est ça.
Il est content, lui. Il est content, il est tout rouge.
Ah oui, là, oui. Je le fais rougir. On évoquera avec vous, Bruno, mais avec les autres aussi, deux joueurs. Alors l'un d'entre eux est très connu, il s'appelle Paul Pogba. L'autre est beaucoup moins connu du grand public, mais vous connaissez tout. Il s'appelle Ryan Sessegnon. C'est ça, je le prononce bien.
C'est rien à voir avec ça.
Stéphane Sessegnon.
Rien à voir.
Le Béninois, lui, il est anglais, Ryan Sessegnon. Et c'est même la nouvelle pépite du football british. Au sommaire également, le football en Allemagne, un Bayern Munich éternel, le seul club encore en lice pour un triplé en Europe. Est-il le meilleur club d'Europe? On verra si c'est aussi simple que cela. Radio Foot, émission préparée avec David Finzel, réalisée par Guillaume Ploquin, pardon. C'est parti.
Il est passé encore une fois, Bongongi. Il lève les yeux, Bongongi, là c'est bon. Et là c'est bon. Et c'est dedans. L'ouverture du score de Florian David. Les derbiers mais de 1-0 à la Beaujoire.
Les attendez pas à ce niveau-là.
Oh, je suis pas sûr.
Non, il n'y a pas d'enjeu.
Mais il n'y a pas d'enjeu. Et ça fait but.
Enjeu. Normalement, il doit y avoir but.
Tout accordé.
Tout accordé.
2-0.
Tu déjà fais partie d'une équipe. C'est fantastique. De faire partie d'une équipe.
Rouge et noir, je crois pas au conte de fées, mais j'espère une chose, que soit la petite bête qui mange la grosse.
Rouge et noir.
Une qualification historique en finale de la Coupe de France et une chanson de l'inclassable chanteur français Philippe Catherine accompagnée de MC Circulaire. Les supporters et les joueurs des Herbiers se souviendront très longtemps de ce printemps 2018. Le club de National a battu Chambly mardi, soit un autre pensionnaire de la 3ème division française. Les Vendéens affronteront un ogre en finale de la Coupe de France le 8 mai, un ogre redoutable et affamé, le Paris Saint-Germain. Alors a priori, le club parisien devrait s'adjuger sa 5ème Coupe de France de rang. Là-dessus, on est à peu près tous d'accord. Par déontologie, on est encore obligé d'utiliser le conditionnel.
Vous y croyez pas, c'est ça? Les Herbiers?
On verra. Bon, en tout cas, je serai au match, personnellement. Donc, j'espère voir un beau spectacle. La Coupe de France, je le rappelle, elle ne qualifie pour rien. Elle ne vous qualifie pour rien si vous ne la remportez pas. Il n'y a plus d'Europe possible avec la Coupe de France. En tout cas, si vous arrivez en finale et que vous faites battre par le PSG, ce qui est un petit peu la norme. Bref, le résultat final importe peu. Les grosses équipes n'ont pas grand-chose à gagner, à la jouer sérieusement. Les petits poussés et leurs exploits, les petits poussés comme les Herbiers, sont-ils donc les sauveurs de cette compétition emblématique, Naïm Moniol?
Sauveur, c'est beaucoup dire, parce que c'est quand même pas tous les ans qu'on a une équipe amateur qui arrive en finale ou même en demi-finale. Après, c'est une compétition qui est aujourd'hui de l'ordre du prestige, du symbole, qui permet au club amateur de se confronter une fois dans l'année aux professionnels. Voilà, elle ne qualifie pour rien, et financièrement, elle ne ramène rien. C'est toujours, quasiment toujours, un club de Ligue 1 qui la gagne.
Et là, voilà, c'est toujours le même club de Ligue 1.
C'est, en plus, là, maintenant, c'est
depuis
le
2014,
même.
2014, le
PSG. On s'accroche un peu à ça. C'est Mais la fédération veut garder cette compétition dans sa lutte intestine avec la Ligue et la Coupe de la Ligue. Donc on la garde.
Carlos, vous nous rappeliez donc un souvenir un peu mitigé d'une demi-finale de Coupe de France. France. À votre époque, ça représentait quoi
Non, n'existait pas la Coupe de la Ligue.
C'est ça.
N'existait pas la Coupe de la Ligue. Mais attention, même celui qui gagnait la Coupe de France, il n'allait pas à la Coupe d'Europe, rien de tout. Hein.
Pour autant, c'était un titre très important.
Oui, mais il donnait pas une place à la UEFA.
Non, mais il allait à la Coupe des vainqueurs de Coupe.
Oui, il y avait trois Coupes d'Europe
oui,
à l'époque.
Oui, jusqu'au moment qu'il y avait le vainqueur de Coupe. Oui. Après, si on enlevait le vainqueur de Coupe, il a resté la UEFA, il a resté la Champion. Et là, oui, parce qu'il y avait des bonnes équipes qui gagnaient la Coupe. Hein. Mais parce que la Coupe, il passait devant, le vainqueur de Coupe, il passait devant la UEFA.
Oui. Donc c'était même plus prestigieux de remporter la Coupe nationale plutôt que de terminer bien classé en championnat.
De jouer la UEFA.
Est-ce que vous avez l'impression que c'est plus la même chose maintenant? Que maintenant, la Coupe de France, c'est réservé pour le PSG, ça sert plus à rien.
Moi, il y a une des deux qui c'est de trop pour la simple raison de qu'il faut donner du repos aux joueurs. Il y a des équipes, quand tu vois les City, ils ne mettaient pas un pied devant l'autre. En quart de finale, la deuxième mi-temps, c'est parce qu'ils participent à tellement de compétitions. En plus, il y a des matchs amicaux de la sélection. La plupart des grosses équipes, ils sont tous les joueurs dans une sélection ou une autre. Alors, arrive un moment donné que tu dois lui donner du repos au joueur si tu veux que le joueur il te donne tout ce qu'il doit te donner.
Sans faire du jeunisme, mais plutôt sans glorifier le temps passé. Bon, non, mais moi, est-ce qu'il faut regretter cet état de fait?
Non, mais moi, je suis pas d'accord sur le fait que c'est une compétition qui est dévalorisée ou qui ne compte plus. Ça dépend de l'intention des clubs. Je suis d'accord, la Coupe de la Ligue, pour moi, pêche là-dessus, parce qu'en plus, il y a moins de tours. En plus, c'est un tableau avec les entre guillemets, les favoris qui arrivent à la fin. Donc forcément, les clubs amateurs ou les clubs de D2 ont plus intérêt à jouer la Coupe de France avec un intérêt, un espoir, entre guillemets, et les clubs de Ligue 1 un peu moins. Mais moi, je suis désolé. Au contraire, comme le PSG domine tellement le championnat, je trouve que certains clubs, comme Lyon, comme Marseille, comme Monaco, ou même en dessous, devraient se donner une priorité de gagner
la Coupe de France.
Comme en Angleterre, c'est arrivé en Angleterre. Il y a quelques années, la Cup était dévalorisée en Angleterre, parce qu'il y avait la Coupe de la Ligue, qui était financièrement plus intéressante, qui donnait une place en Coupe UEFA, parce qu'il y avait moins de tours, qu'on arrivait aussi à Wembley, et du coup, les grands clubs faisaient jouer les équipes bis en Cup. Et ça n'a pas plu en Angleterre. Ça n'a pas plu du tout. Et la revalorisé la Cup. Aujourd'hui, les grands clubs anglais jouent cette compétition à fond. C'est la plus vieille compétition au monde, la Cup. Et on voit aujourd'hui les demi-finales. Il y a quand même Chelsea, Tottenham et Manchester United qui vont jouer les demi-finales à Wembley.
Oui, mais quand vous remportez la Cup, vous êtes quand même critiqué. Wenger, Vandral, dans un passé récent, par exemple.
Non, justement, ça leur a permis de sauver une partie de leur saison. Et certains clubs français qui peuvent plus peut-être gagner le championnat doivent sauver leur saison grâce à ça.
En théorie, tout ce que tu dis est vrai. Moi, je suis entièrement d'accord avec ça, mais il y a les faits, la réalité, c'est que le PSG domine outrageusement la Coupe de France comme il domine le championnat.
Oui, mais
que les clubs aujourd'hui n'ont.
Mais c'est pas pour ça qu'il faut pas combattre.
Non, mais je dis pas qu'il faut pas combattre. Moi, mais même la Coupe de la Ligue, hein, on a vu des matchs de Coupe de la Ligue, les mecs ils venaient, ils jouaient tous derrière alors qu'ils sont à 3 matchs du Stade de France. Moi, tout ça, je veux bien l'entendre. Mais la réalité des faits, c'est que le PSG domine outrageusement la compétition.
Mais qu'est-ce qu'on fait? À ce moment-là, on donne le titre au PSG, les deux titres, et puis on crée un autre championnat pour les autres clubs.
Ou alors, il faut se battre.
Attendez, pas tous en même temps.
Que Paris Saint-Germain, je dis
non,
les autres.
Ah ben non, du tout. Du
quand
tout.
J'ai lu que l'entraîneur de Monaco, il a dit on va pas aller faire de la figuration. Et après, tu encaisses 7 buts.
Alors là, c'était en championnat, parce qu'en Coupe de la Ligue, ils en ont pris 3.
Il a dit ça.
Oui.
Oui, mais championnat,
oui,
c'est
avant
un match important.
C'est vrai qu'avant le match de dimanche, il a dit on ira gâcher la fête et il en a pris 7.
Alors je te dis, c'est parce que, comme il dit lui, le Paris Saint-Germain, il est tellement fort à côté des autres. Que même si les Marseille, Monaco, Nantes, Lyon, tout ce que tu veux, ils s'occupent de gagner la Coupe de France, quand arrive le moment de jouer contre Paris Saint-Germain, ils les mangent.
Non, mais c'est aussi une question de mentalité. Et quand on prend l'exemple de Strasbourg, par exemple, qui a fait tomber le PSG, Strasbourg, ils n'ont pas l'effectif le plus gros, ils n'ont pas plus d'argent.
Mais là encore, c'est en Ligue 1.
Oui, c'est en Ligue 1, mais ça montre qu'on est capable de battre le PSG. Si on met de la détermination, on joue avec des armes et qu'on respecte moins le PSG et ses stars. Hier, par exemple, quand ils ont totalement respecté le PSG, on a l'impression qu'ils jouaient le 0-0 pour aller jusqu'au tir au but. Mais il y a peu de chances de gagner dans ces cas-là.
On rappelle que le Paris Saint-Germain, on en parlera là, juste après, l'a emporté 3-1 à Caen. Naïm.
D'abord, quand on parle des victoires en championnat, là, il y a un vrai enjeu. C'est que quand Strasbourg bat le PSG en Ligue 1, il est dans la course au maintien, c'est très intéressant. Alors qu'en Coupe de France, quand bien même il jouerait le match à fond, Il y a rien derrière. Parce qu'ils vont de toute façon, les équipes ne mettent pas d'intention parce que tu sais que contre Paris, elles ne vont pas jouer, elles préfèrent se concentrer sur le championnat et essayer
quoi,
de prendre des points.
En quoi est différent un match de Coupe de France face au PSG
et un match de championnat face au PSG? Moi, je suis d'accord sur le fait qu'il faut mettre de l'intention, de l'envie et tout ce que tu veux, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, le PSG surdomine la compétition. Et en plus de ça, il a raison de le faire parce que s'il se concentre exclusivement sur le championnat en disant la Coupe, je laisse ça aux pauvres, aux machins, on dirait ah bah ouais, mais il est prétentieux.
Alors, dernière question sur ce sujet. Le problème, c'est que le PSG gagne, mais le PSG, c'est pas du tout son objectif prioritaire. Est-ce que ça aussi, ça participe éventuellement à dévaluer la Coupe, Carlos? Si le vainqueur.
Pour le PSG,
ça ne l'intéresse pas.
Être champion de France, du championnat, de la Ligue, c'est la priorité.
Bien sûr.
Pour Paris Saint-Germain, la priorité, c'est d'être champion d'Europe.
Oui, mais alors, donc, justement, est-ce que ça ne participe pas à dévaluer les compétitions comme la Coupe de France?
C'est pas l'objectif principal du PSG, mais c'est quand même le service minimum. Et si demain le PSG ne gagne plus la Coupe de France, si Emery ne gagne pas la Coupe de France, par exemple, cette année, il se fait tacler de la même manière qu'il s'est fait tacler en perdant le titre l'année dernière.
Allez, un dernier mot, PSG les Herbiers, bon, je faisais un peu d'ironie.
Oui,
tout à l'heure.
Bah, forcément, c'est, ça va être très
pronostique.
Non, mais ça va être très compliqué pour les Herbiers. J'espère qu'il ne va pas y avoir de catastrophe et qu'à la mi-temps, il y a 5 ou 6 buts d'écart entre les deux équipes. Après, moi, voilà, je suis de nature optimiste et je me dis qu'il peut se passer quelque chose. Un carton rouge en début de match.
Regarde,
du PSG.
Manchester City s'est fait éliminer par qui?
Par Wigan. Mais oui.
Une équipe de quoi?
De Détroit. Mais oui.
De Détroit.
Et Wigan a joué. Et Wigan.
Manchester
et en
City,
plus, c'était même pas l'équipe B2.
Et allez voir ce match.
C'était City, il a joué le titulaire.
Il a joué le titulaire. Et allez voir ce match et allez voir le comportement des joueurs de Wigan. Ils n'ont absolument pas respecté City. Ils ont fait un match fantastique.
J'ai vu le match.
Ouais.
Allez, on va évoquer la qualification du PSG hier.
Di Maria qui va s'avère Cavani dans la surface. La frappe croisée. Et Kylian Mbappé pour mettre le ballon au fond. Le but est accordé 1-0 pour le Paris Saint-Germain grâce à Kylian Mbappé. Cavani avec Pastore maintenant face au jeu qui va s'appuyer sur Di Maria. La talonnade maintenant. Cavani dans la surface. Le centre vers Mbappé. Et le deuxième but du Paris Saint-Germain. Le doublé pour Kylian Mbappé.
Le doublé pour Kylian Mbappé, ça va bien pour le jeune Français en ce moment. Doublé avec l'équipe de France face à la Russie, 3 passes décisives et une performance majuscule en finale de la Coupe de la Ligue. Il y a ce doublé hier décisif puisqu'il amène également son équipe en finale de la Coupe de France. Il n'a pas encore fêté ses 20 printemps, Kylian Mbappé, mais cette saison, elle lui va bien. Il est décisif dans les moments qui comptent. On parle aussi dans l'équipe ce matin d'une bonne entente sur le terrain avec Cavani, même dans les
et même dans
l'attitude. Du mauvais esprit et peut-être un peu de
malhonnêteté parce que Neymar est pas là.
Mais voilà, vous lisez dans mes pensées. Mais
on se complète, c'est normal. Mais non, mais c'est la vérité, c'est la réalité. Vous regardez aujourd'hui le comportement d'Mbappé, ce qu'il amène sur le terrain, sa relation avec les autres joueurs, bah vous êtes obligé de constater qu'elle est meilleure depuis le départ de Neymar. Ça veut pas dire qu'il faut séparer Neymar et Mbappé parce que les deux ensemble ont aussi montré que c'était des joueurs de grand talent et que ça marchait. Mais il est un peu plus altruiste, il est moins dans la relation, on est à deux, on est des stars, on fait ce qu'on veut. Il participe un peu plus au collectif, ça s'est vu. Et ça se voit, et tant mieux pour lui, tant mieux pour l'équipe de France.
Ah, ça peut être partageur, un attaquant, Carlos Bianchi.
Oh, la question, c'est quand il faut penser à quand revient Neymar. Il faut penser aussi au nouvel entraîneur, il faut penser au système de jeu qu'il va adopter. Il y a beaucoup de choses à voir là.
Et les récentes performances de Mbappé, est-ce qu'elles doivent obliger à repenser tout ça?
Il a 19 ans, il peut jouer tous les jours au football. Moi, j'étais contre l'idée qu'il part de Monaco, parce que la Coupe du Monde, c'était très important. Pour moi, la saison qu'il a fait Mbappé à Monaco l'année dernière, elle était beaucoup plus importante que ce qu'il a fait aujourd'hui pour Paris Saint-Germain.
C'est-à-dire important dans quel sens?
De son jeu.
De performance.
La performance, il arrivait à la finale.
Vous trouviez meilleur que l'an passé que cette année, donc si
moi,
je
oui,
suis.
Parce que l'année dernière, il n'était pas blessé. Cette année, il s'est blessé une paire de fois. Alors, quand tu n'as pas de la continuité, en plus, tu arrives dans une équipe nouvelle. Tu connais pas Neymar, tu connais pas Cavani, tu connais pas Rabiot, tu sais pas quand ils vont te la donner, si est-ce que ils vont te la donner.
Puis il a fait qu'une saison à Monaco, finalement, en pro.
Il a fait 6 mois même.
Ouais, enfin 6 mois, une demi-saison en plus. Ouais.
Il avait fait qu'une saison
c'est
tout
pour
court.
Ça que je dis. C'est pour ça que je dis, bon, Mbappé, là, au moment, ça tombe bien. Ça tombe à pic de qu'il trouve son niveau.
21 buts, 17 passes décisives, la saison n'est pas encore terminée, ça c'est toute compétition confondue. On a parfois eu des débats sur la qualité de sa saison, quel bilan tirer de cette saison. Là on tend vers le très positif quand même.
Elle est excellente sa saison. Enfin, si on avait dit un gamin de 19 ans arrive au PSG avec toutes ses stars et puis il va mettre ce nombre de buts, ce nombre de passes décisives et cette influence dans le jeu, on aurait été bluffé. On l'est peut-être un tout petit peu moins parce qu'il s'est passé plein de choses avec Mbappé, entre ce qui s'est passé à Monaco, son énorme transfert, etc., qu'il a eu parfois des attitudes où il copie un peu ce que faisait Neymar, enfin voilà, ce qui est un peu logique à son âge, mais je trouve qu'il apprend très vite, il apprend un peu de ses erreurs, effectivement, hier, il était altruiste, il était influent, il était discipliné, même défensivement, donc ça va dans le bon sens, et moi aussi, j'aurais préféré qu'il reste un an de plus à Monaco pour confirmer, dans un environnement qu'il connaissait, et puis il arrive encore à nous montrer qu'il est capable de s'adapter, d'être performant aussi avec le PSG, c'est impressionnant.
Et il a joué dans une position qui n'était pas la sienne, ouais, en plus. Ouais, ouais. Il était obligé à s'adapter du moment que Neymar il était à gauche.
Ouais, absolument.
Ah, mais ça, l'entraîneur que vous êtes sait que les joueurs doivent savoir s'adapter, c'est la marque des grands joueurs.
Tous, ils ne s'adaptaient pas, attention, Platini jouait en place et il n'allait pas le changer.
Alors, la Coupe du Monde va passer par là, là il y a un bon printemps pour Mbappé, la Coupe du Monde va passer par là, il va y avoir des changements au sein du PSG, est-ce que c'est le moment pour lui de faire sa mue, de prendre une ampleur, une place qui n'était pas tout à fait la sienne lorsqu'il a débarqué l'été dernier?
En équipe de France ou à Paris?
À Paris, voire les deux. Bah, est-ce que c'est le moment pour lui de grandir encore un peu plus?
De toute façon, les résultats aidant, il va s'installer. Et sa relation avec Neymar lui permettra toujours d'avoir de bonnes statistiques et d'être au top. Après, c'est pas là qu'on l'attend. Et même en équipe de France, on n'attend pas qu'Mbappé soit un leader à la Coupe du Monde. On attend qu'il soit à son niveau, qu'il amène ce brin d'insouciance, cette folie, toutes ses qualités footballistiques. Et on verra ça plus tard. Et même si l'année prochaine, c'est pas encore un leader au PSG, c'est rien. Ce qu'on veut, c'est juste qu'il marque des buts et qu'il soit très bon.
Et même s'il rate sa Coupe du Monde, à la limite, c'est pas grave.
Ouais, c'est pas lui. Franchement, lui, il a une
la pression doit pas être sur lui. Par contre, ce qui va se passer au PSG la saison prochaine va être intéressant parce que il se passe des choses autour de Cavani. Je pense qu'il y a une histoire de profil d'attaquant que Tourelle qui arrive, il va falloir qu'il détermine quel attaquant il veut vraiment. Cavani a quoi, 31 ans? Il a encore 2 ou 3 ans de contrat. Ça va être le moment pour rentabiliser un transfert de Cavani. Visiblement, ils ont envie de changer. Il veut un profil différent de Cavani. Parce que Cavani, c'est très fort. Mais dans ce que va amener Tourelle, je pense que c'est un profil très différent.
Et alors justement, Tourelle, il a fait briller Aubameyang en pointe. Aubameyang, Mbappé, les profils sont pas si éloignés que ça. Est-ce que Mbappé doit prendre l'axe?
De toute façon, je pense que quand t'as Mbappé et Neymar dans l'équipe, ça sert à rien d'aller chercher une tête d'affiche en pointe. Parce que les mecs qui sont soit du niveau de Cavani, soit un peu au-dessus, qu'on voit en Europe, les Lewandowski, les Agüero et tout, ils ont l'habitude qu'on joue pour eux. Et eux, ces mecs-là vont pas arriver à Paris pour être au service.
Je suis pas d'accord sur Lewandowski. Lewandowski joue.
On en parlera tout à l'heure de Lewandowski. Carlos, Mbappé, l'avenir en pointe, vous pensez ça ou il est bien à droite vous...
Ça dépendra de l'entraîneur, le système de jeu qu'il va faire jouer.
Et vous, si vous étiez l'entraîneur du PSG, vous le feriez jouer en pointe ou vous continuez, vous maintiendrez sur le reste?
Qui est-ce qui, quand au milieu terrain, il y a des joueurs que peut-être qu'ils sont bons, Pastore, Dazler, et Rabiot, tu sais pas où est-ce qu'il va jouer, Verratti il joue quand il joue. Alors, tu peux pas savoir. Alors, ça, c'est parlé pour rien.
Naïm lui tranche.
Moi, je pense qu'à un moment donné, faut le mettre en pointe. Même en équipe de France, tu vois la différence entre ce qu'il fait sur un côté et ce qu'il fait en pointe.
Mais tu peux pas reposer. Enfin, le PSG pourra pas reposer toute son attaque, entre guillemets, parce que c'est l'avancante qui importe quand même. Cavani, on l'a vu, il était très critiqué.
Moi, je te dis pas de ne pas prendre une pointe en complément, de prendre un mec un peu en dessous qui...
Oui, mais du coup, ça veut dire prendre 2 joueurs, un joueur de côté. Le PSG est surveillé par le
joueur. Il y en a des joueurs de côté. Il y a Di Maria, il y a Draxler, il y en a des mecs.
Tu le vois à Mbappé comme numéro 9?
Oui. Ah oui, franchement, oui.
Oh,
oui.
Moi, il est dubitatif, Carlos.
Je trouve que c'est trop tôt et que ça demande du travail, ça demande de s'y habituer.
Oui, mais dans un championnat, c'est pas pareil. Avant-centre, c'est une chose et être par accident avant-centre, c'est une autre.
Hein. Entouré comme il l'est, dans l'équipe où il est, dans le championnat où il est, où t'as pas des masses de concurrence, je pense que c'est le meilleur moment pour faire ses gammes et pour apprendre.
Oui, mais il faut enlever Cavani alors.
Oui, mais moi je parle de tout ça si Cavani s'en va. On parle du principe que Cavani s'en va. S'il reste, non, effectivement, non, il restera sur le côté.
Pour l'instant, Cavani, il est toujours là et on imagine qu'il aura à cœur de briller lors de la finale de la Coupe de France. Ce sera le 8 mai prochain, un mardi pour l'occasion. Ça participe peut-être à enrichir le débat qu'on avait tout à l'heure sur la valeur donnée à cette Coupe de France par les autorités compétentes. La finale de la Coupe de France à suivre en direct et en intégralité sur les antennes de RFI.
Niklas Bender zuletzt zu Spiel. Klasse! 0-2. Robert Lewandowski. 9. Minute. Müller! 1-3. Sie wird gute Vorteilsauslegung. Rafinha zur Grundlinie durch. In der Mitte Robben. Zählt der Treffer? Wohl nicht.
Les cadres du Bayern au rendez-vous. Succès 6-2 à Leverkusen, c'était ce mardi. Après le titre en Bundesliga, le géant bavarois est à l'instar du PSG en route pour un nouveau sacre en Coupe nationale, la Coupe d'Allemagne, la Pokal. La Ligue des Champions est également dans son viseur. Dernier club encore en lice pour un triplé en Europe, c'est-à-dire pour rafler tous les titres à sa portée, on va plutôt le dire comme ça. Le Bayern Munich possède-t-il tout simplement et pour autant la meilleure équipe du vieux continent?
Non.
Carlos, meilleure équipe d'Europe?
La meilleure équipe?
Non.
En Europe?
Pour moi, il n'y a pas une équipe qui est meilleure que l'autre. Alors, moi, aujourd'hui, je suis pas capable de dire Real Madrid, Liverpool, Bayern, Barcelone.
Il n'empêche, le Bayern, eux, ils sont encore en course sur tous les tableaux. Et est-ce que c'est une anomalie ou est-ce que non?
C'est presque
le signe d'une tendance de fond.
C'est presque tous les ans comme ça, non? Je sais pas, j'ai pas toutes les stats en tête. Le Bayern souvent est comme souvent dans le dernier carré de la Coupe d'Europe. Et en Allemagne, ils sont tellement dominants comme le PSG aujourd'hui en France.
Il a bien tombé en quart de finale aussi, hein. Il a bien tombé avec Séville.
Oui, voilà, il y a aussi le tirage. Il faut pas.
Six titres consécutifs. Donc rien d'exceptionnel sur ce Bayern 2018, selon vous. On rappelle quand même que la saison, elle est un peu différente des précédentes, puisqu'il y a, ça a mal débuté, il y a eu un changement d'entraîneur, on a fait
ils ont remis l'ordre.
Du neuf avec du vieux.
Ça a mal débuté, il faut aussi remettre l'église au milieu du village. Il y a une défaite contre Paris, une contre Fenheim en début d'année, tout le reste c'est des victoires. Oui. Si ça débute mal de voir un parcours comme ça...
Il n'y a pas eu changement d'entraîneur, il était déjà là.
Oui, ils ont récupéré Ancelotti.
Oui, mais Ancelotti était viré.
28 septembre.
Ça fait un an et demi déjà.
28 septembre.
Mais c'était le 28 septembre, c'est au début de cette saison.
C'était cette saison. Je veux dire pourquoi.
Vous êtes trop pressé.
Moi, je veux dire pourquoi je ne mets pas le Bayern. Pourquoi pour moi le Bayern n'est pas la meilleure équipe d'Europe? Parce qu'il évolue dans un championnat où il survole. On parle de ce que fait le PSG en Ligue 1, mais ce que fait le Bayern en Allemagne est monstrueux. On peut pas comparer avec Manchester City ou Barcelone, qui sont dans des championnats, mais à la concurrence féroce, atroce. Même les équipes du milieu de tableau, de bas de tableau, vous posent des problèmes. Tous les week-ends, Bruno peut en parler sur l'Angleterre. Donc, tu peux, et c'est très bien ce qu'ils font, ils ont un super effectif, un gros banc de touche, ils ont certainement très bien géré leur calendrier, le turnover, la préparation physique. Je ne retire absolument rien à ce qu'ils font au travail de Jupp Heynckes. Mais en Bundesliga, c'est quand même beaucoup plus facile. Quand tu prends 10, 12, 15 points d'avance, tu fais tourner ton effectif. City peut pas le faire en Angleterre. Enfin, Guardiola déjà le fait pas.
City aurait pu le faire.
Oui, il aurait pu, il le fait pas.
Ils l'ont pas fait.
Mais en Espagne, il le fait pas, Valverde non plus.
Ils l'ont pas fait.
Qu'à un moment donné, ouais, mais parce que t'es dans des championnats où la concurrence, elle est trop féroce. Beaucoup plus qu'en Allemagne. Ils ont collé 6 en championnat à Dortmund, 5 à Mönchengladbach, ils viennent d'en mettre 6 à Leverkusen, là en coupe. Alors il y a eu l'accro contre Leipzig, ils perdent 2-1. Mais globalement, regarde ce que fait offensivement le Bayern en Allemagne.
C'est vrai que c'est un rouleau compresseur, mais je pense que, et Carlos va peut-être m'en parler mieux, c'est quand même un vieux de la vieille en Europe, quoi. C'est un des 4 clubs historiques en Europe, je pense, le Bayern. C'est une institution, et je pense que quand il y a une mini-crise dans le club, ça ne tremble pas, les murs tremblent pas au Bayern.
Et justement, ce côté...
Excusez-moi. Qui dirige le club, ils sont des footballeurs.
Oui.
C'est un ex-footballeur, c'est un avantage.
Et des anciens du Bayern en plus.
Alors justement, cette capacité à s'appuyer sur l'expérience, celle des dirigeants, celle de l'entraîneur, celle des joueurs, puisque Ribéry, Robben, ils jouent de nouveau un rôle de premier plan, ils ont été prolongés. Est-ce que c'est peut-être ce qui fait du Bayern une équipe, alors peut-être pas la meilleure du continent, mais une équipe un peu à part cette saison en Europe et peut-être un favori pour la Ligue des Champions?
Pour moi, ça commence à être une équipe vieillotte, hein.
Oui, bien sûr. C'est trop vieux.
Il y a plus de 5 joueurs qui sont plus de 30 piges.
Bien sûr.
Alors, comment ça va être vieux?
Ils ont du mal à renouveler. Ils ont du mal à renouveler.
Robben, Ribéry, Hummels, Vidal, Lewandowski, il avait 9, 30 ans. Mais la question, c'est que eux, ils peuvent gérer les autres compétitions pour la simple raison qu'un championnat, c'est facile pour eux.
Bah oui.
Alors, c'est une époque comme l'Ajax. De l'époque des Van Gaal. Il faut c'est pareil. Le championnat hollandais, c'était l'entraînement. Et la champion, c'était le vrai championnat. Après, c'est pareil.
Après, le fait qu'ils soient habitués à être toujours dans le dernier carré, ça apporte de l'expérience, ils supportent la pression comme personne d'autre, ils sont forts sur ce côté-là. Ce que le PSG n'est pas encore, ils ont encore du mal.
Mais il y a des fois le tirage,
je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord.
Parce que s'il aurait tombé Bayern de Munich contre Real Madrid, au quart de finale, peut-être qu'ils passaient pas le Bayern.
On rappelle qu'en quart de finale la Ligue des Champions, ils ont battu Séville. Et en huitième, j'ai un trou, c'est aidez-moi, Beşiktaş. Donc c'est pas vraiment le tirage le plus impressionnant. C'est pas le tirage du PSG pour le coup.
Mais, Naïm Monial. C'est ce que je suis d'accord, moi, avec ce que disait Bruno. Et, sur la Ligue des Champions, justement,
C'est vrai qu'ils survolent le championnat, mais en Coupe d'Europe, quand tu regardes bien, ils font pas non plus finale sur finale par rapport au club espagnol. Et c'est une équipe qui survole énormément son championnat avec toutes les qualités de l'effectif.
Non, mais
ils ont trop de difficultés.
La saison
aussi,
passée, c'est une équipe qui s'est fait voler face au Real Madrid. Faut reconnaître.
La saison passée, je veux bien.
Donc, la saison d'avant. De finale,
la saison je veux bien. Les saisons d'avant aussi. C'est pas toujours volé par l'arbitrage, le Bayern Munich. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qu'ils font sur la scène européenne, ils arrivent pas à l'exporter en championnat. Ils arrivent pas à l'exporter sur la scène européenne, pas uniquement sur l'année où ils se font voler.
Alors je vais poser la question autrement, sont-ils aussi bons qu'en 2013 où ils avaient réalisé ce fameux triplé avec Heynckes et des joueurs qui étaient déjà là? Et sont-ils meilleurs que les années où ils ont échoué en demi ou en quart de finale?
Ils sont 5 ans plus vieux.
Et c'est quasiment la même équipe en plus, quasiment.
5 ans plus vieux.
L'effectif est plus fourni. Alors sont-ils meilleurs que l'an passé ou
l'effectif est plus fourni?
Sont-ils meilleurs qu'avec Guardiola?
Non, non, oui, mais c'est plus fourni.
Alors vous êtes d'accord, Naïmonia?
Peut-être pas plus fort en termes de qualité, mais avec un effectif beaucoup plus fourni qu'en 2013 quand même.
Tu élèves 5 ans à Robin, 5 ans à Ribéry, 5 ans à Lewandowski.
Qu'est-ce que c'est que ce jeunisme, Carlos?
5 ans dans la vie d'un footballeur, c'est beaucoup.
Je veux bien tout ça.
Moi, j'étais pas pareil à 33 qu'à 28.
Je veux bien.
L'époque a changé.
Quand vous regardez ce que font Ribéry, Robben actuellement, qui dirait qu'ils ont 33 ans.
Oui, mais ils le font championnat Allemagne.
Voilà, moi j'attends de voir vraiment face au Real.
C'est ce que je te dis, je veux voir sur la scène européenne, mais on peut pas nier quelque chose.
Il faut le voir contre
aujourd'hui.
Carvajal.
Après, il profite aussi, et je suis d'accord avec Carlos, il profite aussi qu'il y a un affaiblissement en Europe, des grandes Europes. Parce que le Barça, on en a beaucoup parlé, moi je trouvais que défensivement, ils n'étaient pas si solides que ça, on a vu ce qui s'est passé avec la Roma. Le Real, ils sont pas convaincants à chaque fois, ils passent souvent en ric-rac.
Là, ils sont passés à l'arrache, oui.
À Manchester, il y a beaucoup d'interrogations sur City. Bon, ils sont tombés face à Liverpool. Liverpool, il y a aussi des interrogations sur Liverpool. C'est pas une équipe qui est toujours très équilibrée.
Non, à ce moment-là, des interrogations, t'en as sur tout le monde, Bruno.
Non, mais cette année,
il y a pas une grosse équipe.
Voilà, il y a pas un dominant. Il y a pas un
comme
dominant.
Comme tu voyais l'année dernière.
Il y a pas un favori.
Comment on voyait Real Madrid?
Donc le Bayern est un révélateur d'un niveau pas très élevé.
Ils ont toujours fait partie de ce noyau de 5-6 équipes.
Les années précédentes, Real Madrid, Barcelona, qui c'était champion. Tu le voyais qui c'était tellement fort, que Carlos, tu le voyais candidat.
Carlos, dire qu'il n'y a pas de grosse équipe aujourd'hui, qu'on voyait ce qu'a fait.
Des régularités, la régularité, parce que quand je pense.
Le Barça, ils sont invaincus en championnat, Carlos?
Non, mais
on parle globalement sur la saison. Regardez ce que fait Barcelone, ils sont invaincus en championnat.
Regardez ce que fait la scène européenne. Moi, je parle de la scène européenne.
Ouais,
Barcelone s'est fait éliminer par la Roma.
Ils sont aussi leaders du plus grand championnat d'Europe. Ils sont invaincus, les mecs. Tu peux pas dire qu'il y a pas une grande équipe. Regardez ce que fait le City avec Guardiola. Tu peux pas dire que c'est pas une grosse équipe. Peut-être que c'est pas folichon. Peut-être que tu peux critiquer plein de trucs. Et c'est vrai que la Roma
niveau, c'est pas du niveau du Bayern de 2013. C'est pas du niveau de Real de 2013.
Ben oui, mais c'est peut-être au-dessus du Bayern de 2018 quand même.
Je sais pas, preuve, c'est qu'il y a débat. On voit pas une équipe qui se dégage vraiment.
En tout cas, on verra ce qu'ils sont capables de faire face au Real Madrid. Première manche de cette demi-finale de Ligue des Champions. La semaine prochaine, là, je vais placer le débat sur un plan moral. Est-ce que, à l'heure de l'explosion des prix des transferts, à l'heure où, voilà, le football a pas toujours une excellente image, est-ce que le Bayern et son côté club familial, géré par les anciens, géré par les tauliers, on fait pas de folie sur le marché des transferts. Est-ce qu'au moins, à défaut d'être le meilleur club d'Europe, c'est pas l'un des plus sympathiques, celui qui renvoie une image
morale?
Tu trouves
que la manière dont Ancelotti et Guardiola sont partis, ça renvoie une image sympathique?
Ah bah moi je vous pose la question, moi j'ai pas de réponse.
Excuse-moi, qu'est-ce que t'as dit, la façon qu'il est parti?
Ancelotti et Guardiola, la manière dont ils sont partis du Bayern en conflit avec les dirigeants, est-ce que ça renvoie une image sympathique?
Est-ce que c'est un club sympathique pour vous? À votre époque, c'était pas le club le plus sympathique du monde.
Qui est l'entraîneur qui n'a pas eu de conflit avec les dirigeants?
Ça montre la force de ce club.
Et comme écoute, comment il est parti Guardiola de Barcelone aussi? C'est quand tu pars, tu pars.
Mourinho de Chelsea,
il y a quelque
Mourinho
chose
du Real,
que tu pars.
Vous les trouvez sympas ou pas ces Bavarois?
Non, mais il y a quelque chose. Moi, Lizarazu me dit toujours, quand un Français, par exemple, signe au Bayern, il est sûr de faire une belle carrière. Parce que c'est un club qui est stable. Même s'il y a des crises, c'est des crises que je disais qui ne font pas trembler les murs. Tout se règle en interne. C'est une équipe qui gagne régulièrement des trophées, qui est souvent présent dans les carrés de la Coupe d'Europe.
Qui gagne souvent
des trophées. On l'a vu, par exemple, avec Willy Sagnol, qui n'était pas le meilleur latéral droit du monde, mais qui a fait une belle carrière au Bayern.
Un peu mieux que ça.
Oui, on voit Ribéry. Ribéry a fait une belle carrière. Et il est resté, en plus. C'est les joueurs qui restent longtemps. Lizarazu est resté 9 ans. Ribéry, ça fait plus de... Ouais, ça
Ribéry
fait plus
est
de 10
arrivé
ans.
En 2007.
Ouais.
Ça fait 11 ans.
Ça veut dire quelque chose.
Micro, Carlos.
Ça veut dire quelque chose.
Ça fait 11 ans, excusez-moi.
Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que les joueurs s'y sentent bien, qu'il y a un confort de vie et de sportif qui fait que
il y a du respect des dirigeants.
Oui, alors aussi. Cet aspect
sinon,
institution.
Tu sais combien de fois tu t'en vas parce que les dirigeants ils te manquent le respect.
Alors cet aspect institution, est-ce que ça rend pas quand même ce club, est-ce qu'il faut pas vanter les mérites de ce club au moins sur ce point-là? Est-ce que c'est pas
oui,
aussi un peu de
un
il n'y a pas une sorte de fraîcheur d'une certaine manière?
C'est un modèle économique. C'est financièrement, c'est un club qui vit très bien. C'est un modèle de formation. C'est peut-être moins vrai ces derniers temps, mais sur les dernières années, ils ont formé pléthore de joueurs qu'ils ont utilisés en équipe première. Tout ça, je dis pas le contraire. C'est géré par des anciens. Miroslav Klose, intègre le club l'année prochaine pour entraîner les jeunes. Donc, ils rentabilisent bien leurs joueurs. Ils travaillent très bien.
C'est
le
un club qui fait jouer, par exemple, beaucoup de joueurs nationaux, beaucoup d'Allemands.
Mais oui, mais aussi parce que c'est
y a
le
moins de
gros
folie.
Club. Ouais, mais
oui.
C'est le gros club du pays.
Ouais, mais c'est ça aussi le problème.
C'est
important.
Le problème du Bayern, c'est qu'il est trop seul en Allemagne.
Le PSG est très seul, il n'y a pas beaucoup de Français au PSG.
Mais après, c'est une politique après, hein, ça c'est pas.
Et justement, le Bayern se définit contre le PSG en termes d'image.
Il y a que des Allemands au Bayern et que des anciens joueurs du club. C'est aussi pour ça qu'on germanise beaucoup le Bayern. C'est aussi pour ça qu'on fait revenir Jupp Heynckes quand ça va pas avec Ancelotti ou après Guardiola.
En finale de la Coupe d'Allemagne, on parlait dans le casque, hein, d'où ce petit blanc.
Il n'a pas joué au Bayern.
Non, c'est vrai.
Effectivement, un bon rappel historique. Merci Carlos.
Où est-ce qu'il jouait?
Mönchengladbach.
Borussia, ouais, très bien. Félicitations, vous avez gagné.
Bon, en revanche, il a gagné la Ligue des Champions avec le Bayern en 2013, mais également avec le Real Madrid en 1998.
Ouais. Pour moi, c'est pas 98, c'est 96.
Ah non, c'est 1998.
C'était pas 30 ans?
Non, 98 contre la Juve, 1-0.
Ouais, tout à fait.
32 ans. Il savait déjà avant la finale.
Il va falloir réviser vos dates, Carlos. Hein.
Tu savais ça?
Comment?
Il savait avant de jouer la finale qu'il était viré.
Ah non, je ne savais pas ça.
Qu'il était viré. Il a gagné la coupe, il est parti. Il savait déjà qu'il était viré.
Bah, en 2013 aussi.
Tu vois? Comment tu pars des clubs.
Ouais.
Bon.
Tu prends la porte de
sortie. C'est moche, hein.
Je peux enchaîner.
S'il gagne à chaque fois un trophée, alors qu'il sait qu'il va partir, là, il sait qu'il va partir à la fin de la saison. Donc il risque
de gagner
encore.
Cette fois, c'est lui qui l'a décidé, me semble-t-il.
Oui,
parce que là, pour le coup, on était d'accord pour le faire rester.
Ouais, après, 2013, c'est lui qui décide.
Bon, c'est la transition la plus longue de l'histoire de Radio Foot. Faut vraiment que j'enchaîne. En finale de la Coupe d'Allemagne, le Bayern affrontera l'Eintracht Francfort. Désolé pour l'accent, et ce sera le 19 mai.
Quel but qu'il a marqué.
Radio Foot International. Hugo Moissonnier.
Radio Foot International avec Carlos Bianchi, Ney Moniol et Bruno Constant. Un plateau très, très en forme. Le football anglais à présent au sommaire. Manchester United qui a battu Bournemouth hier à l'extérieur. Succès 2-0. Une rencontre de la 35e journée de Premier League. Pogba a signé une passe décisive, hein, c'est ça Bruno, à l'attention de Lukaku.
Oui.
Vous l'avez trouvé comment l'international français? Alors je vais vous poser la question et avant je vais poser la question à José Mourinho.
Top performance. So he can do it.
Incroyable. José Mourinho, il a dit du bien de Paul Pogba. Vous êtes d'accord avec lui?
Mais
top,
oui.
Top performance.
Mais oui, parce que Pogba était bon. Donc quand il est bon, il faut le dire. Il a été bon aussi parce qu'il a changé un peu son attitude. Il a joué simple. Il a joué vers l'avant. Il a mis de l'intensité dans ses prises des balles, dans son jeu. Il a défendu. Il était plus discipliné défensivement. Il a fait tout ce qu'on lui reprochait avant, et notamment le match de West Bromwich ce week-end, qui a offert le titre à City, où il était absolument catastrophique. Il a pété le sol, mais il a été catastrophique. Et il est sorti avant l'heure de jeu. Et aujourd'hui, une sortie de Pogba avant l'heure de jeu, ça ne choque plus personne. Ce qui veut bien dire qu'il y a un souci Pogba et qu'on s'est aperçu qu'il n'est pas assez régulier. Maintenant, voilà, quand il est bon, faut le dire, et il a été très bon. Manu était discipliné à Bournemouth, et voilà.
Et on rappelle son doublé qui avait gâché la fête de Manchester City.
Ouais, mais c'était
il y a une dizaine de jours. Donc c'est les montagnes russes en gros. Pogba,
exactement. C'était sur la deuxième mi-temps.
Manchester United. Où il en est?
C'était un doublé.
Où il en est à United? C'est encore un cadre. C'est un joueur qu'on va pousser vers la sortie cet
c'est
été.
C'est un joueur de. Si tout se confirme de ce qu'on entend autour de Manchester, qu'il y a un souci avec Mourinho. Que son agent Mino Raiola essaie de le proposer un peu à droite à gauche. Il l'a proposé à Manchester City cet hiver. Il l'a proposé au PSG ces dernières semaines. Il essaie de pousser au Real Madrid pour essayer que le Real le récupère. Le Real n'est pas forcément très intéressé.
Ce ne sont pas des rumeurs, ce sont des faits.
Mais Mino Raiola a toujours procédé comme ça. À chaque intersaison, il propose ses joueurs quasiment partout. pour parfois pour déstabiliser le club où il est, parfois pour attendre une réaction, éventuellement une prolongation du club. Là, le problème, c'est que Pogba fait pas forcément l'unanimité à Manchester United, mais les anciens reconnaissent aussi, qu'ils l'ont critiqué parfois, reconnaissent aussi que quand il est bon, il devient important. Et si Pogba joue comme il a joué hier soir à Bournemouth, ça devient un joueur important. La question, c'est de savoir s'il est capable de le faire régulièrement. On s'est aperçu le week-end précédent que c'était pas le cas. On l'a vu contre Manchester City, qu'il a joué une période sur deux. Ouais. Voilà, on sait pas ce qui se passe avec
un invité surprise à un téléphone. C'est le vôtre, Carlos. Il va falloir aller éteindre.
On ne sait pas à quoi s'attendre avec Pogba. On n'a pas de garantie sur sa régularité.
Il n'a pas de régularité. Je pense qu'on peut aussi avoir un constat plus définitif sur le cas Pogba, c'est que ce n'est pas un joueur régulier. Quand on dit, il faudrait se demander s'il est régulier, il l'est pas à Manchester, il n'était pas à la Juve.
25
ans.
Pogba. On est d'accord. C'est plus un espoir.
Arrêtez avec ces histoires de il est jeune et machin. C'est plus du tout un espoir, Pogba. Maintenant, moi, je pense que c'est pas une bonne solution qu'il quitte le club. D'abord parce que si par maintenant son parcours à United sera définitivement un flop, il peut l'améliorer. Je dis pas en faire je sais pas quoi, mais il peut l'améliorer. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que s'il quitte le club en fin de saison, ces deux années n'ont servi à rien.
Et puis
s'il gagne une Ligue Europa.
Pour savoir où aussi, parce
et
que quel club va oser mettre de l'argent sur lui aujourd'hui.
Deuxième point, aujourd'hui, ouais. Il part très bien, il va où? Ouais. Il va où? Les gros clubs n'ont pas forcément besoin d'un joueur dans son secteur de jeu.
140 bâtons.
Comment?
Il faut trouver quelqu'un qui mette 140 bâtons.
Mais pas grand chose aujourd'hui.
Justement.
Vous les avez, Carlos.
Quel club va mettre autant d'argent sur un joueur comme Pogba qui n'apporte aucune garantie de régularité, puis qui en plus aime bien être la star de l'équipe, aime bien être un peu.
Mais alors, s'il reste à Manchester United, on va bâtir l'équipe autour de lui comme ça pouvait être le cas.
Non, l'équipe, elle se bâtit autour de José Mourinho. c'est différent déjà. Mais voilà.
Enfin, il y a toujours un cadre.
Il va être obligé à s'adapter. Il va être obligé à baisser la tête et à travailler pour moi.
Est-ce que ça a déjà été un cadre?
Parce que sinon, Mourinho, il se le bouffe.
Ah, et puis il le mettra sur le banc.
Oui,
il a montré cette saison.
Lui, il s'est fait pas
essayer. Après, Mourinho, ce qui fait parler, c'est qu'il est sur Fred, le Brésilien du Shakhtar, qui est très très bon aussi. Et voilà, si United se met en chasse d'un milieu de terrain, il y a forcément une idée que Pogba pourrait peut-être s'en aller.
Et il faut regarder quelque chose, c'est que si Pogba veut être la star de l'équipe. Vous regardez la compo d'hier, je pense qu'à part De Gea, qui est peut-être le meilleur gardien du monde aujourd'hui et le gardien de la sélection espagnole, Pogba, c'est la seule star mondiale hier dans l'équipe. Même s'il n'en a pas le rendement et ce que vous voulez, c'est le terme marketing, voilà, le produit Pogba, c'est la star de l'équipe. Sanchez ne jouait pas depuis le départ d'Ibrahimovic, c'est la star. Il aime ça être Pogba, il aime être la star, il veut pas de concurrence, il veut pas de machin. Il va quitter Manchester United. Il y a aucun club de haut niveau, de haut tableau qui a des prétentions en Coupe d'Europe qui n'a pas 2, 3, 4 stars dans son équipe. Comment il va réagir là-dedans?
Vous parlez de stars en termes d'image,
en termes de marketing. En termes d'image, bien sûr, pas en termes de niveau de jeu.
Football,
voilà. Mais on peut aussi parler du niveau de jeu. Aujourd'hui, il va aller au Real Madrid. Est-ce qu'il va concurrencer Casemiro? Il va aller à Barcelone. Est-ce qu'il va prendre la place de Busquets? Il va aller à City, à Chelsea.
Le problème,
aller...
c'était qu'on ne sait pas le placer. On ne sait pas où le placer.
Quel est son poste, c'est ça la question.
Est-ce qu'il poste? C'est pour jouer un 4-4-2, c'est pour jouer un 4-2-3-1, c'est pour jouer un 4-3-3, tu le fais jouer au centre. Ou tu fais... À la Juventus, il jouait du côté gauche.
Côté gauche, dans un système avec 5 défenseurs.
Avec 5 défenseurs, il y avait un là, il y avait deux à côté.
À l'Euro, il avait testé aussi à gauche des champs, c'était contre l'Irlande de mémoire.
Dans un 4-3-3.
À gauche, côté gauche. Il y avait
qui était blessé, côté droit.
Ouais, je ne sais plus qui était blessé, il avait été mis à gauche, je crois que c'était contre l'Irlande. De mémoire, me semble-t-il, mais c'est vrai ce que dit Carlos, on sait pas le placer, non seulement on sait pas où le placer, lui-même parfois prend des libertés qu'on lui demande pas, de prendre le ballon, d'aller jouer derrière l'attaquant, alors que parfois il aurait mieux à faire de rester dans l'entrejeu. Voilà, c'est toujours très ambigu, Pogba.
Bruno, on va pas refaire l'histoire, son transfert, il remonte à l'été 2016. On a quand même l'impression que c'était une mauvaise affaire pour tout le monde, hormis pour les sponsors ou Mino Raiola.
Sauf pour lui.
Ouais, et puis pas pour le club.
Sportivement parlant, on voit pas trop où a été l'intérêt de ce transfert.
Sportivement, il y a des questions, et puis surtout pour le prix qu'il a coûté, et surtout un joueur qui est parti librement quelques années auparavant, 3-4 ans auparavant. Et le problème, c'est qu'Alex Ferguson, s'en était voulu d'avoir laissé partir un peu ce joueur à cause de l'agent. Et visiblement, il s'en veut encore de l'avoir racheté à ce prix-là pour les résultats sportifs qu'on voit. Ils peuvent être patients encore une saison, mais je suis même pas sûr qu'ils le seront. Et en fait, tout est entre les mains de Pogba. C'est qu'à un moment donné, Pogba doit déterminer ce qu'il veut être. Est-ce qu'il veut être une star ou est-ce qu'il veut être un grand joueur?
Ferguson, il l'a acheté?
Comment?
C'était Ferguson qui l'a fait.
Ferguson a donné son aval pour le racheter, pour réinvestir.
Mais lui, il était l'entraîneur, non?
Non, c'était Mourinho. Mais il y avait une vraie question de savoir est-ce qu'on va réinvestir 100 millions d'euros sur un joueur qu'on a laissé partir librement 4 ans auparavant. Et ça fait débat à United, hein. Et Ed Woodward, qui est le directeur entre guillemets sportif football du club, était un ancien responsable au niveau commercial du club. Et ce qui est aujourd'hui critiqué, c'est d'avoir trop pensé en termes de commerce marketing pour le club plutôt qu'en termes de sportif. Et aujourd'hui, United le paye et le paye depuis un an et demi maintenant.
Alors, on va parler d'un joueur en devenir cette fois, puisque Paul Pogba n'est plus un joueur en devenir. Son nom, Ryan Sessegnon, 17 ans. Il évolue à Fulham en D2 anglaise. Il est nommé pour le trophée PFA du meilleur jeune joueur de l'année. Alors, c'est des récompenses décernées par les acteurs du football anglais.
Oui, c'est ça. C'est là, par l'association des joueurs professionnels d'Angleterre, de Grande-Bretagne, entre guillemets. Il est nommé, alors c'est le premier joueur de division inférieure à la Première Ligue, être nommé parmi les joueurs de la Première Ligue.
Concurrents, entre guillemets, ce sont Kane, Sané, Sterling, pour ne citer que de sacrés clients.
Ouais.
Incroyable.
Ouais,
ça montre le niveau de cette pépite.
Et là, il a
17 ans.
À quelle place il joue?
C'est un peu comme Gareth Bale. Il a commencé latéral gauche. Il peut jouer ailier. Il peut jouer sur tout le couloir, en fait. Et en Angleterre, il est beaucoup comparé à Gareth Bale. Il a un peu la même trajectoire. C'est un phénomène. C'est vraiment un phénomène.
Il est associé au récent succès des sélections de jeunes qui raflent tout. Coupe du monde des moins de 17 ans, Coupe du monde des moins de 20 ans, tournoi de Toulon,
Euro des moins de 19. Étant co-meilleur buteur.
Mais ce qui frappe chez lui, c'est sa précocité. Il a marqué, c'est le plus jeune joueur à avoir marqué un championship à 16 ans
94 jours.
Et 84 ou 94 jours, ouais. Et c'est ça qui est frappant. Et après, si tu repars en Angleterre, c'est pas le premier à émerger si tôt. J'ai l'exemple de toujours le Theo Walcott, qui était un prodige annoncé, qui a signé à Arsenal très jeune, qui a joué à l'âge de 16 ans à Arsenal et qui a jamais vraiment percé. Donc il faut toujours se méfier de ce qui peut se passer en Angleterre, notamment en Championship. Championship, ça reste c'est un bon championnat, très difficile.
Mais c'est de la deuxième division.
Mais ça reste que de la deuxième division. Et on voit par exemple avec Dembélé au Celtic, on avait dit que tous les grands clubs européens allaient se l'arracher. Pour l'instant, il est toujours au Celtic. Et pour l'instant, il n'a pas bougé.
Mais les jeunes Anglais remportent des compétitions internationales. Est-ce que c'était le cas il y a 10-15 ans? Je ne crois pas.
Non.
Donc est-ce que ça veut dire qu'il y a aussi eu des progrès dans la formation anglaise?
Oui, il en est le symbole. Il y a certainement des progrès dans la formation anglaise. Il en est le symbole, lui et d'autres. Il gagnait pas tout, mais il figurait pas mal non plus, les jeunes Anglais, il y a quelques années, dans les grandes compétitions. Il y a eu cette espèce de rumeur comme quoi les Anglais formaient pas, que les jeunes se faisaient balayer à chaque fois. Moi, je trouve que c'était un peu fort quand même comme réputation. C'est vrai que là, sur les derniers temps, il gagne tout. Il en est le symbole. Peut-être aussi parce que malgré l'argent en masse qui arrive, on fait de plus en plus confiance aux jeunes. Et c'est une très bonne chose. Et il faut voir un truc, c'est que même s'il va y avoir des propositions qui seront très difficiles à refuser, en Championship, il y a beaucoup de pognon. Premièrement, Fulham peut lui faire un salaire terrible. Fulham est troisième pour le moment en course pour la montée en Première Ligue. Donc, il peut aussi monter en Première Ligue avec son club formateur.
Et c'est son souhait. C'est ça qui est intéressant dans son discours. Il veut jouer en Première Ligue à Fulham. Et s'il fait ce choix-là, moi, je trouve que c'est intelligent. Ouais, parce qu'il peut grandir avec ce club-là.
Il peut vraiment à Fulham.
Parce qu'il est formé là-bas.
Il est arrivé très tôt. Il veut grandir avec ce club-là. Et puis, c'est très bien que la Première Ligue est difficile. Que s'il va aujourd'hui, par exemple, à Arsenal ou Tottenham, il a aucune garantie de jouer. Ouais, il va être en difficulté.
Quand on est un jeune joueur, qu'on attire déjà les médias, quelle est la recette? La patience? Le travail? La patience? Quels sont les écueils à éviter,
Carlos? C'est arrivé.
Pardon?
De ne pas croire que c'est arrivé.
Ah, d'accord.
Parce que tu arrives.
L'humilité, donc.
Être intelligent. Et travailler pour progresser. Sinon, si tu progresses pas, tu reviens à la caisse départ.
Les paroles du stage. Pour l'instant, il n'a pas donné de signe d'enflammade.
Non,
rien de
signe. Non,
pour 17 ans. De toute façon, il n'a pas trouvé le temps.
Par contre, ce qui serait bien, c'est de le voir à la Coupe du Monde. Moi, je trouverais ça génial.
C'est tôt, bon, pour moi. C'est
moi, je trouverais ça génial de le voir. C'est ça.
Non, parce qu'on a eu Theo Walcott la même fois qui avait été appelé
en 2006.
Par Ericsson. Il avait 16 ans, 17 ans et ça avait servi à pas grand chose et on a vu que derrière Walcott avait surtout subi la pression de ce truc-là et qu'il avait eu du mal à rebondir et
oui, après on peut pas généraliser non plus.
Plus généralement, Bruno, dimanche sera décernée une autre récompense à l'occasion donc de ces PFA Awards. Ce sera la plus attendue d'ailleurs de ces récompenses, celle du joueur de l'année, les nommés De Bruyne, De Gea, Kane, Sané, Silva et un certain Mohamed Salah. Il est sans rival, l'Égyptien.
Ah non, il y a un vrai match entre Kevin De Bruyne et Mohamed Salah. Ce qui est intéressant, c'est qu'après l'élimination de City en Ligue des Champions face à Liverpool et donc Salah, Les gens disaient, ouais, c'est Salah qui est au-dessus parce qu'il fait une saison magnifique, il marque à chaque match, etc. Et lors du dernier match à Tottenham de City à Wembley, pour le match qui leur offre quelque part un peu le titre, Kevin De Bruyne a été exceptionnel et il a rappelé à tout le monde quelle saison magnifique il avait fait. Et les gens avaient un peu oublié et quelque part, De Bruyne mérite ce titre parce qu'il a vraiment été fantastique. Et il allie vraiment l'efficacité à de la beauté, de la grâce, un petit peu comme Zidane. Et je trouve qu'il le mérite un tout petit peu plus. Mais les deux sont vraiment côte à côte. Après, c'est le vote des joueurs, hein. Et certains joueurs n'ont pas le droit, enfin les joueurs n'ont pas le droit de voter pour leur coéquipier, par exemple. Donc voilà, c'est une histoire de.
Moi, je me mets à mettre ça là.
Sans discussion, sans réfléchir.
Bruno a raison de souligner la saison de De Bruyne qui est merveilleuse, mais regardez par qui est entouré De Bruyne. Regardez qui entoure ça là. C'est des joueurs pas mal, mais on peut pas comparer l'effectif de Liverpool à celui de City. Regardez ce que fait Salah dans un effectif plus limité.
Pas, hein, il est jamais battu, hein.
Moi, je trouve, ouais. Non.
Salah, il est jamais battu un champion, hein.
Oui, mais on peut pas comparer les effectifs, Carlos.
Non, la différence de De Bruyne et Salah, c'est que Salah est parfois au bout de l'action et profite de la force de Liverpool, alors que De Bruyne, c'est lui qui crée souvent la lumière.
Je sais, c'est vrai.
C'est différent, le poste.
Oui, c'est différent.
Deux postes, il n'y a pas de comparaison. Ouais. Un, il doit finir, et l'autre, il doit construire.
C'est toujours l'ambiguïté de ces distinctions
individuelles. C'est pour ça. Pour moi, c'est le plus difficile, c'est de finir, pour moi.
Donc,
on peut pas reprocher.
Il y a un truc,
c'est qu'on peut pas reprocher à Salah de pas avoir brillé dans les gros matchs.
Ah oui, il était fantastique.
Et qu'à un moment donné, il faut aussi que ça paye ces choses-là, quoi. C'est bien de prendre la saison sur la globalité.
Mais De Bruyne aussi. De Bruyne, oui, dans tous les gros matchs que City a gagné à Chelsea, contre Liverpool, contre United, à chaque fois, l'homme du match, c'était De Bruyne.
Ouais, mais j'aurais aimé le voir sur la ligne.
C'est pour ça qu'ils sont vraiment, ils sont vraiment sur la même ligne et moi, je serais presque envie de leur donner à tous les deux, tellement ils ont été forts tous les deux.
Ah, c'est notre
rare, hein.
C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé de jouer comme ça.
Non, mais généralement, il y a un titre qui vient compenser, c'est le titre de l'association. Des journalistes de presse écrite qui décernent un titre un peu plus tard, au mois de mai.
De meilleurs joueurs également.
Et parfois ça peut compenser. Et ça avait été le cas avec Leicester où ça avait été Vardy et Mahrez. Ça avait été le cas, je crois, avec Chelsea avec Hazard et N'Golo Kanté. Enfin, il y a toujours eu parfois une petite compensation. Et voilà, je pense que les deux joueurs cette année.
Et l'avant-centre de Tottenham, non ?
Harry Kane, il est nommé. On aurait pu penser que c'était un candidat crédible.
C'est lui qui a marqué le plus de buts.
Non, c'est Salah.
Maintenant, c'est Salah, le meilleur buteur de première
ligue. L'année dernière, oui.
Et c'est lui qui l'a gagné?
L'année dernière, non, c'était Hazard et N'Golo Kanté
Pour
le titre avec Chelsea.
Bien sûr. Le français, N'Golo Kanté.
Ouais.
Ça vous inspire pas grand chose. Vous dites que vous préférez les finisseurs, vous l'ancien buteur.
Et j'aime l'avant-centre de Tottenham, je l'aime beaucoup. C'est un très bon joueur de football, fin.
Un travailleur,
et il a un jeu de tête extraordinaire, il frappe les deux pieds comme personne.
Pour moi,
il est très, très complet. Ouais. Hein. Franchement, quel âge il a, 24, 25 ?
Il a 24 ans. Il est encore nommé dans les espoirs avec la Première Ligue, ça fait rire tout le monde, parce qu'il a 24 ans, ça fait déjà 4 ans qu'il...
Une des grosses équipes, il faut qu'il achète.
Et saison après... Moi, c'est ça qui est impressionnant, saison après saison, il marque, il n'est pas rassasié du tout. Et c'est vraiment...
Pour moi, c'est le meilleur avant-centre qu'il y a en Angleterre. Hein.
Et la présence de Derea, un gardien dans cette liste, vous en parliez.
C'est une très bonne chose, c'est mérité. Tiens, ça serait pas mal. Alors peut-être pas cette année parce qu'on a parlé de Salah, de De Bruyne, mais qu'un gardien l'ait, ça serait bien. Et s'il y en a un qui le mérite, c'est bien lui, puisque quel monstre. C'est un des joueurs, tout poste confondu, qui a le plus progressé sur les dernières saisons. C'est devenu le meilleur gardien du monde, sans problème. Alors qu'à une époque, il avait un gros potentiel, mais il faisait des trucs un peu bizarres, des cuts et tout. Mais je trouve monstrueux.
Et Sané, David Silva. Trop loin.
Non, mais Silva, c'est un joueur magnifique. Moi, j'adore David Silva. Sané a fait une super saison. Les gens parlaient de Sterling, qui était plus buteur, passeur que Sané. Après, moi, il y a un joueur deux joueurs qui ont été oubliés, mais on peut pas tous les mettre. C'est Fernandinho, qui est vraiment la pierre angulaire de cette équipe de Guardiola. Et Ederson, le gardien, qui pour moi, je trouve, est un meilleur gardien que De Gea parce que beaucoup plus influent dans le jeu de son équipe.
Merci Bruno Constant, merci Carlos Bianchi, merci Naïm Moniol pour ce Radio Foot très dynamique. Ce sera pas mal demain aussi à l'occasion du Café des Sports. En attendant, très bonne soirée sur RFI.